Nicolas, Nick in the house. On est là. Bienvenue, bienvenue dans un épisode live du podcast spécial US Open. Nick, il fait un genre de spécial hockey aussi un peu à la fois, là, de ce que je comprends, Nick, c'est ça?
Ouais, il fait chaud, par exemple. Là, je commence à avoir chaud un peu.
Va falloir que, ouais, c'est ça, là, que c'est assez, ça respire pas beaucoup ces gilets-là, hein. C'est assez ordinaire.
J'ai commencé à avoir un peu chaud, là, je te le dis.
Ouais.
Là, je me suis rasé pour l'occasion, parce qu'on était à Jigsaw. Oh,
tu te l'es
taillé, ça.
Taillé, mettons, là.
Ouais, c'est ça. Je me suis coltaillé.
Ouais, parce que ça paraît pas vraiment, je suis obligé de te dire, c'est à la caméra, là. Mais de toute façon, on t'avait vu là, la semaine passée. On t'avait vu au volant.
Ouais, mais j'avais mon mauvais angle.
Camion de pollueur, là.
J'avais mon mauvais angle, par exemple, tu m'avais dit.
Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que tu sois comme de l'autre bord. C'est ça l'histoire. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Hey, mais c'est nouveau, mais j'aime ça, Nick. J'aille pas ça, nos petits lives, par exemple, parce que tu sais, on le fait de toute façon. Puis. Ceux qui ont écouté la semaine passée, vous avez entendu, là, c'était un peu suite à un petit problème d'enregistrement il y a quelques semaines qu'on a dit, crime, pourquoi qu'on fait pas des lives anyway, ça va taper en même temps, puis on va pouvoir faire ça live, puis on s'en était parlé, puis aujourd'hui c'est quand même assez facile, Nick aussi, là, on s'en était parlé, puis de toute façon ça tape, on leur met ces plateformes de podcast après, ça va peut-être créer un peu plus d'engagement, puis quoi de mieux, ben là on a eu la méga nouvelle la semaine passée, Nick. Je pense qu'overall, malgré le fait qu'on a beaucoup de questions, toi puis moi, on était quand même assez contents de la nouvelle parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense que le scénario idéal, ça a toujours été un mélange des deux parce qu'il y a bien des affaires que du PGA Tour, on avait beaucoup de critiques à faire. Beaucoup, beaucoup même, là. Au fil des années qu'on fait ce podcast-là, Nick, tu le sais, Jay Monahan et toute la gang de bonhommes du PGA Tour, ils ont mangé à claque quand même là, dans le podcast. Mais il y a aussi Liv, évidemment, qui arrivait avec d'autres affaires qu'on aimait. Puis là, ben, on avait plusieurs critiques aussi. Entre autres, on avait parlé justement du broadcast puis d'une couple d'affaires qui faisait un peu plus boboche. Là. Fait que je pense que de merger les deux, ou en tout cas de combiner les deux, ça risque d'être popé. Quoi qu'on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Je veux pas trop en parler, Nick, parce que pour de vrai, on a fait un épisode là-dessus la semaine passée. Puis veut pas, ben, c'est un spécial US Open. On va revenir un peu sur le Canadian Open dans quelques instants. Là. Mais on s'entend, toi puis moi, Nick, on en a parlé en long en large dans notre épisode la semaine passée, mais il y a vraiment rien à dire. De plus, il y a tellement de questions qui demeurent sans réponse, à savoir qu'est-ce qui va arriver. Les joueurs ne le savent pas plus parce que personne n'est au courant. Puis même les détails du deal, il n'y a rien vraiment de coulé dans le béton. Il y a les grandes lignes, mais il n'y a rien vraiment de setter par rapport à bon comment ça va marcher. T'sais, les gars ne savent pas. Je ne sais pas si tu as entendu Nick Brooks Koepka aujourd'hui dans sa conférence de presse qui a niaisé les journalistes un peu. À la fin, en disant « OK, tout le monde, merci, on se voit aux Travelers la semaine prochaine. » Tu sais, en voulant dire, regarde là.
Et qui va aux Travelers la semaine prochaine?
Je sais pas. Tiger Woods? Non. Toi? Ben, si, boire. Pour de vrai.
Je niaise pas, man.
Tu y vas-tu en solo ou avec madame?
Avec monsieur.
Ah oui, c'est vrai, tu y vas avec... Avec numéro, numéro 1.
Numéro 1. C'est ça. On fait notre premier voyage père-fils. Je l'amène aux Travelers. On s'en va au Connecticut après 6 heures de route. On part le jeudi. On va là vendredi, samedi. Puis on vient le dimanche. Donc, on va voir comment ça va se passer.
C'est très bien hâte. Vraiment. Bien hâte. Ah oui, je comprends donc.
On aura des casquettes Milwaukee parce qu'il y a deux de mes voisins qui viennent avec moi. Puis on aura des casquettes Milwaukee. On ira voir, on paiera une visite à Patrick Cantlay. Juste de même.
Sérieux, il faut que tu prennes une photo et tu mettes ça sur le compte du podcast. Là. Ça, c'était écœurant.
Oh, on n'a pas le choix.
En plus, il est rendu sur le sac puis tout. Là. C'est pas juste sur le side de la calotte. Là. Il a full embarqué dans les outils jaunes, le gars qui se met trop de crème solaire. Tu sais, fait que. Non, le gars, c'est un peu spécial. Ouais. Hey, Nick, avant qu'on parte, j'ai le goût qu'on crée un nouveau segment maintenant qu'on est
en train. D'abord, on a un thème pour le segment?
Non, on n'a pas de thème.
Des mis musiques, à part là, que. des
partages. Ouais, mais là, je n'ai plus parce que c'est un nouvel outil là, de la dernière fois. Fait que je n'ai pas. Puis peut-être qu'il faudrait que j'en upload.
Okay.
Mais, ou en fait, il faudrait probablement que j'ouvre une autre fenêtre puis je partage juste le son. En tout cas, ça pourrait se faire, okay. Mais non, c'est ça. J'ai pas ça de prête là. Tu sais, je pourrais ajouter, par exemple, une source. Regarde, tu vois, j'ai une background music. Il y en a des... Ben, regarde, en fait, je pourrais l'ajouter, ça, voir peut-être que... Tu veux-tu une musique de lounge, Nick, ou...
Ah, c'est toi le DJ, man.
OK. Parce que, regarde, tu vois, je suis supposé avoir... Merde.
Hey!
En fait, j'ai choisi au hasard. J'aime ça parce que le segment s'appelle « Qu'est-ce qu'on boit? » Tu sais, fait que parce qu'on le fait à la blague, mais on boit tout le temps un petit quelque chose quand on fait notre podcast, même si c'est des fois un lundi, un mardi, tu sais, on n'est pas supposé. En tout cas, moi, j'essaie de pas boire trop la semaine. Là.
Qu'est-ce qu'on boit?
Mais là, j'ai un segment « Qu'est-ce qu'on boit? » avec la musique de lounge. T'aimes-tu ça ou...
Oh, c'est hot, hein? Ah, oui.
Fait que là, ben, puis moi d'ailleurs, ben, tu le vois de par mon background, je suis sur place. Donc le podcast, on ne listen pas sur les moyens. Je suis en direct du 11e trou au Los Angeles Country Club pour le US Open cette semaine. On voit le beau background. Il fait beau. Il y a pas beaucoup de monde sur le terrain aujourd'hui. Je sais pas, le monde est où. Peut-être que, je sais pas, ils ont tout fait le rond de pratique un peu plus de bonheur aujourd'hui. Mais dans le segment « Qu'est-ce qu'on boit, Nick? » De mon côté... Et là, je sais pas trop avec mon ah, ça donne qu'on dirait que c'est un background. Mais non, je vous le jure. Mais de mon côté, c'est un petit Crown Royal à la pêche. On the rocks, évidemment. Donc, beaucoup, comme vous pouvez entendre, là, beaucoup de rocks. On aime ça avec des rocks. Parce que moi, je suis vraiment pas un connaisseur et je suis vraiment pas fancy à ce niveau-là. Mais de ton côté, je sais que tu l'es plus. Donc, de ton côté, Nick in the house, qu'est-ce qu'on boit?
Un petit fond de bouteille, on a le Dalwhinnie 15 ans, scotch, single malt, puis après ça, le deuxième scotch, dans l'année qu'on a fini la bouteille, ça va être un petit Oban 14.
OK! Dans le segment qu'est-ce qu'on boit, tout le monde, merci beaucoup. Voilà. C'est quand même pas pire, hein? T'sais, j'en ai plein des musiques de même, là. T'sais, je sais pas. En tout cas, je vais en trouver, là.
Ouais, on n'est pas obligé de les sortir tout aujourd'hui. Là.
Non, je pense que non. Mais ceci dit, par contre, étant donné qu'on est en live, puis oui, évidemment, on ajuste ça pour les podcasts, mais je pense que tout le contenu qu'on fait, que ce soit en live ou en podcast, ça s'ajuste très bien. Mais si vous avez des questions, si vous avez le goût de participer, on allez soit, parce qu'évidemment, on est live sur YouTube, sur Twitter. On va probablement se faire un Instagram, Nick, je pense, juste pour le bien de la cause. On mettra des images, on mettra des patentes là-dessus. Je sais que toi, tu es très Instagram. Moi, je le suis de plus en plus. Non, tu es très Instagram, là, ta minute, là, monsieur Samuel. Hey, attends un peu. En fin de semaine, t'as mis tes steaks, là, pour montrer le pshhh.
Le sizzle.
Ben oui, c'est ça, là. T'es très, très Instagram, là. T'sais, moi, je pense que ma dernière photo, c'est quand je suis allé au QBE shootout il y a un an et demi, là. Fait que, t'sais, on s'entend, t'es gars, tu vas le mettre sur Instagram. Je sais, je te connais, là. Fait que, t'sais, voilà. T'sais, je sais que t'es très Instagram, mais je sais que notre public, en général, Nick, est très Instagram aussi. Fait que d'ajouter une plateforme, tu sais, comme je vous dis, on est sur YouTube, on est sur Twitter. Fait que d'ajouter ça sur Instagram aussi en live, je pense que ça va être bon. Là. Mais si vous avez des questions, peu importe la plateforme, inscrivez-les là, on va les prendre, puis on va pouvoir peut-être répondre, on en choisira quelques-unes à la fin. Puis sinon, ben, ceux qui sont en podcast, ben, vous allez pouvoir avoir le bénéfice de voir les questions et tout ça. Donc... Nick, comme on fait un peu à l'habitude, faisons un petit recap de ce qui, d'après moi, a été, Nick, et les chiffres de CBS tendent à supporter ce que je te dis là. Ça a été probablement un des meilleurs Canadian Open dans les dernières années. Oui, l'année passée, il y avait eu Rory, puis là, Rory qui envoie chier Greg Norman sur le green en disant que lui, il a telle victoire, puis ça, puis tata. Mais c'est pas la même chose, parce que c'est pas un Canadien qui a gagné le Canadian Open, à l'inverse de cette année, c'est Nick Taylor, qui a joué du bon golf, by the way. T'sais, on l'avait vu, Nick, c'est où? C'était au Waste Management, qui était dans le final group, qui avait comme connu une ronde coup-ci, coup-ça.
Non.
Ben,
il avait quand même bien joué.
Ouais, mais c'est parce qu'il... Ouais, t'as raison. C'était un peu unfair comme statement, mais c'est parce qu'il s'était fait morpionner le pion par Scottie Scheffler. Là.
Exact.
Parce que c'est ça. Mais effectivement, il n'avait pas mal joué. C'est juste qu'il n'avait pas perdu le tournoi, mais il n'avait pas été le chercher non plus. Là. Mais toujours est-il que Nick Taylor, c'est un gars qui roule sa bosse depuis longtemps sur le PGA Tour. Nick, je pense qu'il est il a 13 ou 14 millions de revenus de bourse en carrière. Là. C'est un gars de
il avait la joué, excuse-moi, il avait joué moins 6. Oui.
En ronde finale?
En ronde finale, en quatrième ronde. C'est pour ça, je me souviens, il avait bien joué.
OK, mais c'est la troisième ronde?
Peut-être. Papam, papam. Je te reviens avec ça. Mais Scottie Scheffler avait aussi joué moins 6.
OK.
Fait
que c'était peut-être ça l'histoire. Là. Ouais, ouais.
Peut-être.
OK. OK. Anyway. Mais toujours est-il qu'il jouait du bon golf cette année. Puis on l'a vu, là, je veux dire, tout un week-end pour Nick Taylor, 63 en troisième ronde, 66 en ronde finale. Et non seulement son 66, mais je pense que Nick, on s'entend, il y avait un peu le on savait pas si 17 ça allait tenir, hein, parce que tu avais quand même quelques trous sur le back où il y avait des trous à birdie là-dedans. Fleetwood qui cale un solide birdie au 17. Puis là, bon, on se dit, ben là. 18, un petit par 5. Les gars frappent genre.
Fleetwood.
Mais oui, tu sais, fait qu'on se dit, d'après moi, Fleetwood, met juste ça dans l'allée sur le tee, puis il y a pas mal un birdie automatique, là, tu sais. Puis finalement, ben, qui chie ça un peu, se met dans le rough après ça, se remet dans le rough sur le lay-up. Méchant, comment tu as dit ça? Un lay-up de touriste, c'était pas mal ça.
Ouais.
C'était assez spécial.
Mais Dan Rappaport, qui est quand même assez famous sur les Instagrams, plus sur Twitter, l'avait callé, il avait fait un tweet comme de quoi à quel point c'était le pire layup qu'il a jamais vu de sa vie. Puis, à ce qui paraît, il s'est fait regarder au US Open par le caddie de Tommy Fleetwood d'une manière assez agressive. Puis, on s'entend que le caddie de Tommy Fleetwood, c'est pas un petit monsieur. Là. Donc, Dan Rappaport avait callé out Tommy Fleetwood, mais avec raison, on s'entend. Très, très quirky comme trou en passant, comme 18e trou, un par 5 de 4, 9, 8 environ en bas de 500 verges. Tommy Fleetwood, c'était faire 6, bois 5 pour rentrer. Là. Assez spécial.
Oui, parce qu'en plus, le tee est à peu près 172 pieds dans les airs. Là,
exact.
Hey, donc, mais en passant.
Mais ça donnait quand même. C'est, on va se le dire. Là. Autant que moi, sérieusement, de ne pas partir un par 5 avec un driver, ça m'énerve. Faire un lay-up pour ça. Mais d'un autre côté, si tu es capable de te rendre en deux, pas besoin d'avoir un par 5 de 658 verges pour que ce soit le fun. Il y avait de l'angle, il y avait de l'ondulation, il y avait de l'eau à droite, il y avait une trappe de sable à gauche, un petit fairway, et le green était, il penchait tout vers la droite. Donc, quand même assez quirky, mais ça donnait un beau finish quand même. Un trou quand même assez le fun pour jouer, puis rejouer et rejouer.
Ouais, j'ai fait la paix un peu avec le trou, plus que je le voyais, plus que je voyais les gars le jouer, Nick. Parce qu'effectivement, au départ, si tu peux pas dire que hey, méchant trou de malade, non. C'est toujours un peu spécial. Mais je sais pas si tu as vu justement aujourd'hui le caddie Fleetwood, les gars de 4Play faisaient un podcast, une genre de but au US Open. Puis il est allé à rencontre. Puis il dit, tu fumes-tu du crack, toi? T'as... Fait que là, les gars ont mis ça. Allez voir ça sur Instagram, c'est quand même assez drôle.
Avec le caddie de Tommy?
Ouais, ouais, ouais. Ils se sont rencontrés face-to-face. Puis il dit, si t'avais vu l'ail, puis t'avais vu à patente, t'aurais compris. Puis Fleetwood, il venait de stiff deux lob wedge en ligne, vraiment proche. Fait qu'on savait qu'en lay-up, nanana, blablabla, là, il s'est expliqué, tu sais. Mais Dan Rappaport, il a tenu son bout. Il dit, je pense quand même que vous auriez dû l'essayer, parce que ça aurait pas pu être payé vraiment, blablabla. Mais ils ont eu une petite confrontation, qui ont mis ça sur Instagram. Fait que c'était quand même assez drôle, là.
On s'entend que... Peu importe, c'est-tu la deuxième fois qu'ils ont joué le 18e trou? Il a crissé ça d'instance. Puis peu importe, ouais. ils ont un lay-up, pas un lay-up, mais un relief assez intéressant. C'est pas une shot facile, mais pour un joueur de la PGA, on s'entend que le green est en haut, là, dans le rough, ouais. dans le gros rough, mais pour un joueur de la PGA comme Tommy Fleetwood, c'est quand même assez facile pour un up and down. Faut que tu fasses le pot, il l'a fait pour continuer la prolongation, là, mais tu sais, dans le doute, au pire, tu frappes un des stands, puis tu as un relief quand même assez intéressant. Ben,
c'est ça, j'ai pensé aussi quand j'ai vu à balle pognée, j'ai dit, c'est sûr que nous autres, si on jouait avec des estrades tout le tour du green, on aurait quelques coups de plus ou de moins, ben, en fait, sur notre
sur notre le shotgun, sur le shotgun start, Andy Johnston en rit tout le temps. Tu sais, des fois, tu vas avoir un back. Il y a certains tournois qu'au 18e trou, le backstop, t'as à peu près même pas 3-4 verges en arrière. Fait que les gars, au pire, s'ils sont moindrement mauvais placés, on frappait un bâton de plus, on arrivera en arrière, on aura un relief, un chip, up and down, puis that's it.
Ben oui, c'est ça. Hey, c'est ça, j'ai retrouvé les chiffres, Nick. Pour le Canadian Open, sur CBS, on parle de 3,3 millions de personnes qui ont vu Nick Taylor caler son pote de 72 pieds, 6 pouces, pour l'aigle. Au quatrième trou de prolongation, je pense. On jouait deux fois le 18, une fois le 9, puis là, c'était le 18 une autre fois.
C'est le 4 ou le 5?
Je pense que c'était quatrième trou de prolongation. Quatrième ou cinquième? C'était pas 6, en tout cas, ça, je suis pas mal sûr.
Non, je pense que c'est cinquième.
Cinquième?
Je check l'info.
De toute façon, je vais l'avoir ici. Non, quatrième, excuse. Ouais, quatrième. Okay. Les deux ont fait birdie au premier trou, on jouait le 18. Après ça, les deux ont fait part. Les deux ont fait part au 9, puis ont rejoué le 18 pour la troisième fois de la prolongation. Puis c'est là qu'il a calé son pote pour le Eagle. Mais 3,3 millions avec un peak à 6,76 millions, Nick.
Sur CBS meilleurs... pour un Canadian Open?
Yes, sir, Miller. Et c'est le plus haut total de l'événement depuis 23 ans. Et si tu te rappelles, il y a 23 ans, c'était Tiger. En dehors de la trappe dans le plein milieu qui se claque un genre de fer 5 complètement débile, là, la fameuse shot qu'on regarde tout le temps. Là. Ça, c'était la dernière fois qu'il y avait eu des ratings aussi bons. Mais c'est le plus haut total qu'ils ont jamais eu. Et c'est, tantôt je disais Rory, mais c'est pas pareil, c'est up 19% par rapport aux 2,8 millions de personnes qui ont vu McIlroy gagner l'année passée. Donc quand même une augmentation d'à peu près 20% pour Nick Taylor, alors que c'était Nick Taylor Fleetwood, mais évidemment beaucoup de Canadiens, Nick. Puis on se le cachera pas, l'histoire de PGA, Live, le merge, ils ont été annoncés ça sur CNBC. Fait que je pense que ça l'a peut-être attiré l'attention beaucoup pour le meilleur et pour le pire, là. Mais ça l'a probablement attiré l'attention un petit peu sur tout ce qui se passe avec le PGA et dans l'industrie du golf, dans le monde du golf présentement. Donc, toute qu'une audience, Nick, pour ça. Donc, ça augure bien pour le US Open, qu'on va parler un petit peu plus tard. Mais du côté du RBC Canadian Open, gros succès, je l'ai dit, Nick Taylor qui cale son aigle. On en a parlé un petit peu avant de rentrer en onde, Nick, mais...
Mais attends un peu, là.
Oui, oui.
Quoi? On va faire du coco vin, là.
J'allais montrer mes highlights du RBC. Là. J'allais juste te parler de mes highlights, mais vas-y, je t'écoute.
OK. Non, mais c'est quand même assez impressionnant. Puis on s'entend que le RBC, dans l'horaire, c'est un des tournois les pires placés. Tu es en le Memorial, qui est un tournoi qui va toujours avoir beaucoup de monde là. Puis en plus, c'est un elevated event. Et le US Open. Tu es dans une espèce de vase genre dégueulasse. Mais, encore une fois, back-to-back, puis ça, beaucoup de bons joueurs qui sont commencés par RBC, ce qui aide au field, tu n'as pas le choix, là, c'est sûr que ça l'aide, mais il y en a aussi qui ne peuvent pas rentrer dans le Memorial à cause du ranking, puis ensuite de ça, s'en vont là pour préparer pour le US Open, qui aussi, mais tu sais, tu as aussi le qualifying de la même semaine, le lundi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent contre le RBC Open. Puis, back-to-back, année après année, on se souvient du finish avec Rory, qui était super bon. Back-to-back, c'est un des meilleurs tournois, meilleur finish, même si ce n'est pas un elevated event, de la PGA, de la saison de la PGA. Back-to-back. Donc, peu importe c'est où, c'est qui, on a vraiment montré à quel point la PGA, malgré les joueurs qui se pointent, peuvent donner un Christy show. On s'entend que Tommy Fleetwood est une espèce de coqueluche des fans, on s'entend, est connu des fans, pas des fans débutants, mais quand même des fans intermédiaires avancés. Tommy Fleetwood, c'est un Christy bon Jack, puis vend le produit, puis c'est un excellent ambassadeur pour le golf. Mais Nick Taylor, personne ne le connaît bien. C'est un gars qui joue quasiment tous les tournois pour pouvoir se qualifier pour la FedEx Cup. Plus maintenant, avec cette victoire-là. Mais dans le passé, il a dû faire beaucoup de tournois. Il joue 30-35 tournois par année pour se qualifier, pour gagner le plus de points, pour gagner sa carte l'année d'après. Donc, peu importe c'est qui, si tu aimes vraiment le golf, puis les codes d'écoute l'ont montré, ben ça a été un franc succès. Et c'est ce que la PGA doit banker on. Peu importe, si tu es capable d'avoir des produits de même, un finish de même, ben Christy, tu as un succès en tes mains.
Puis en plus, ben, quand t'as Adam Hadwin qui se fait geler par l'agent de sécurité, ça ajoute toujours un peu d'attention.
Il a volé le show un peu.
Hey, c'était écœurant, pareil. Jim Nance qui call que Hadwin vient de se faire ramasser. Là, tout le monde, ses réseaux sociaux, OK, là, j'ai besoin du footage parce que là, je peux pas juste me contenter des paroles de Jim Nance. Et heureusement, évidemment, il y avait plein de monde, plein d'angles de caméras différentes. Et Hadwin, qui lui, en tant que chevalier qui n'abandonne jamais, a sauvé le champagne. Il a mis son pouce dedans. Yes. Pour faire, comme le gars qui tombe dans la piscine et qui garde sa bière. J'ai sauvé ma bière, je suis correct, les gars. Fait que ça, c'était assez hilarant. Là.
Ça n'aurait pas pu arriver à une meilleure personne où lui est good sport, très belle attitude, mais sa femme aussi, ses médias sociaux, est vraiment drôle. Vraiment en oui. dans toute la gamique du Twitter, puis est suivi par les amateurs de golf parce qu'elle est super drôle. Donc, ça n'aurait pas pu arriver à une meilleure personne. Puis, encore une fois, Internet a gagné avec tous les memes, tous les montages. C'était parfait. C'était un moment parfait. Ces deux moments-là, le pote de 72 pieds plus le tackle, jusqu'à notre mort de Dieu, on va les revoir à chaque année, au moins 3, 4, 5 fois par année. Dans des recaps, dans des highlights, dans des top 5, dans des top 10. C'est vraiment un beau moment qu'on a vécu dans l'espace de 30 secondes.
Ah non, c'était hot. Puis ça aurait pu arriver à un gars plus costaud, par exemple, je suis obligé de te dire. T'sais, Hadwin, il y avait quasiment
Connor,
des...
c'est quand même costaud. Ça aurait pu...
Ouais, mais tu sais, il y avait quasiment du monde inquiet que le gars soit blessé. T'sais, il est pas gros, Hadwin, puis l'agent de sécurité est... Tu sais, t'as vu les...
Une pièce.
Un des memes, là, tu sais, avec Ray Lewis qui fait son espèce de pre-game routine avant d'embarquer. C'est comme l'agent de sécurité qui voit Hadwin. J'étais comme, tabarnak. C'est bon.
Internet est trop fort, man. Internet est tellement fort.
Mais tu sais, on va en avoir tellement des affaires de quand tu vois telle affaire, puis là, ça va être là, tu sais, c'est sûr, tu l'as dit, on va revoir ça. C'est écœurant, puis c'est juste bon au final pour toute la game, tu sais, Nick, parce que là, le monde, ça vient d'où, cette vidéo-là, telle affaire, blablabla. Tu sais, puis là, ben, le monde va regarder ça, on va dire, Chris, c'est le fun au golf, style champagne arrive sur le stage, puis etc., tu sais.
Filion, on en a parlé aujourd'hui, mais les fans de golf canadiens sont vraiment hot. Ça a manqué peut-être un peu de classe, mais veux pas que la boisson embarque et le quatrième playoff. Tu as le temps d'en aligner des Coors Light.
Ah, ben oui. Hey, puis c'est correct, Nick.
C'était le fun. C'était comme. Il y avait une ambiance un peu waste management sans être le waste management. Ça ne sera jamais le waste management. Il n'y a aucun tournoi qui sera le waste management à part le waste management. Si je pouvais dire waste management 4-5 fois, je leur dirais. Mais. Ça a donné vraiment une belle ambiance. Ça boost up le broadcast aussi. Ça l'aide au broadcast. C'était sérieusement, je ne suis pas un grand fan des Ontariens, comme tu le sais, mais là, je leur lève mon chapeau. Ça a donné un esti de show.
Where's my caviar? Il n'y avait pas. C'était pas la même gang. C'était pas la même gang qui était des. Oui, non, mais c'est pas la même gang qui est dans le lower bowl au match des Maple Leafs. Non, ça, c'est sûr.
Ben, ceux-là sont dans les grandstands
Ouais, ils sont partis au 13e trou, eux autres.
Le gars qui ramasse la balle, puis là, la madame qui est en crise.
Ah oui, prennent des photos.
Puis là, le gars qui demande au gars des rules officials, can I take the ball to take a picture? Hey, rule official. Et ça fait 5 minutes que tu prends des photos avec la balle dans les mains.
Ben oui, ben oui, Chris. Mais tu sais, en plus, Nick, pour sur le point que tu viens de dire, là, ça prend de la variété. Tu sais, on va être les premiers, je pense, à dire que s'il y a une patente un peu plus folklorique qui arrive au Masters, on va faire « Hey, tu sais, comment c'est le Masters? » Mais à l'inverse, on veut cette variété-là. On veut que le Masters, ça soit le Masters pour le veston vert, puis le gazon coupé au ciseau, puis toute la patente, parce que c'est le Masters. Mais on a autant besoin du Waste Management, puis on a besoin du Canadian Open avec The Rink, avec le monde qui chante l'hymne national, des fois qu'il y a un gars qui arrive ou qui tape sa bande. Là, je sais pas si tu as vu le vidéo avec Harry Higgs.
Non, j'ai pas vu.
Que le monde chantait « Take it off ». Take it off. Puis il y a un gars qui a enlevé son gilet des estrades, puis il se pide ça de même. C'est comme on Harry! »
C'est parfait.
Le monde était complètement malade, mais tu sais, c'est ça qu'on veut. Ça peut-tu être ça pendant 32 événements? Ben non.
Non.
Mais on en veut des mêmes. Tu sais, on veut cette variété-là pour dire, bon, ben, gars, t'as peut-être le côté plus classique ou réservé de cette place-là, que c'est comme la tradition. Puis là, ben, t'as ça, que c'est un peu plus éclaté. Puis, tu sais, c'est de même que tu recrutes un peu plus de monde. Puis, tu sais, sur ton point par rapport à la cédule, tu sais, je t'ai parlé du Memorial. Je suis obligé de te dire que c'est un méchant stretch pour que les gars, tu sais, ils veulent prendre une semaine de break aussi, là, parce que t'as le PGA maintenant qui joue à la mi-mai ou, tu sais, la troisième semaine de mai. Fait que la plupart des gros gars sont là. Le Charles Schwab Challenge, le Colonial, c'est le terrain préféré de beaucoup de gars. Là.
Mm-hmm.
Fait que t'as beaucoup de gros noms, là, moins parce que justement, t'as parlé de la cédule. Fait que t'as quand même beaucoup de gars qui veulent aller jouer ce tournoi-là. Fait que là, OK, là, t'es rendu à 2 semaines en ligne. Là, les gars veulent pas manquer le Memorial. Fait que 3 semaines en ligne. Fait que là, si tu vas au Canadian Open, puis après ça, le US Open, finalement, tu vas jouer 5 semaines en ligne. Fait que c'est trop pour ces gars-là. Fait que là, les gars, il faut qu'ils choisissent. Fait qu'il y en a qui disent, ben, j'aime Colonial, mais là, ça marche plus. D'autres qui disent, ben, Canadian Open, ça va être celui-là que je vais skipper parce que là, je viens de faire 3 semaines en ligne. Je vais en skipper une, je vais jouer US Open. Tu sais, fait que c'est toutes des patentes où ce que. Quitte à ce que.
Il y a deux choses. Ouais, vas-y.
J'allais dire, quitte à ce qu'on peut-tu les saupoudrer, ces événements-là? Je comprends que. Chris, le Memorial en janvier, ça va être tough, là. Parce qu'en Ohio, en janvier, il fait frette un peu, là. Mais
j'embarque sur ce point-là. Je fais deux points. Je suis la PGA, puis je suis Sleep J. Ben, d'un, CPJ must go. Là. Je pense qu'on fait des T-shirts de CPJ must go. Si je suis Sleep J, puis je vois ça en fin de semaine, je me dis, OK, RBC Open, elevated event next year. Là. No matter what. Puis je le mets dans le schedule pour que ça fitte quand même. On s'entend, on est au Canada. Fait que à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, tu peux le fitter. Là. Il fera pas trop chaud. Ben, on sera pas au Texas à 45 degrés. Tu peux le fitter pas mal un peu n'importe où.
Tu sais, il y a une semaine que tu as le John Deere puis le Barbasol back-to-back. Là. Tu peux le mettre là.
Exact. Fait que là, Elevated, tu vois qu'est-ce que les fans sont capables de te donner. Puis non seulement, back-to-back, ça t'a donné des excellents événements puis des excellentes comme d'écoute, comme tu m'as dit. Deuxième affaire, c'est si moi, je suis un gars du PIF puis je m'occupe de le schedule l'année prochaine, si je regarde le RBC, si je regarde le Waste Management, puis si je regarde un des événements qui a le plus pogné avec la LIV Golf, puis on s'entend, ça, il faut en parler un peu parce que le LIV Golf, va complètement disparaître. Mais si je suis les gars de PIF, mais je fais un des plus gros événements avec une des plus grosses bourses de l'histoire à Adélaïde, en Australie. Parce que c'est l'événement à LIV qui a le plus marché. Puis c'est une espèce, c'est le Waste Management de l'Australie. Ça a pogné au bout. Tu fais la plus grosse bourse de l'histoire. Tu fais un esti de party. On s'entend, là. Carlos nous l'a dit, les 600 milliards de. c'est quoi, 600 milliards de bankroll qu'ils ont, le fonds souverain. Ils ont de l'argent pour funder ça. Là. Tu fais un esti de show en Australie. Là. Ça, ça complète ton espèce de trois tournois là, que le party est complètement pogné. Mais tu te fais un gros team event avec les meilleurs au monde. Tu fais Team Australie, Team Texas, Team England, whatever. Pas des espèces de noms, genre, avec des logos, genre, copiés. Tu fais le plus gros. Yes. 100 millions de bourses, whatever. Je te dis, man, ça va exploser. Là, tu as l'argent pour le faire.
Fait que, ben oui.
Anyway, moi, je ne coûte pas cher pour conseiller. Anyway, I'm going to throw it out there.
Don't sell yourself short, Nick. On coûte quand même un peu, là, Chris. Ouais. Steve, t'as pas vu? Ils ont 650 milliards d'actifs sous gestion. Je pense que, tu sais...
Ouais, à 250 millions, je vais travailler pour eux. Puis j'ai des bonnes idées. Fait que, anyway, ça, moi, c'est... Dans un PGA, doit revoir où le RBC... fit, parce que c'est un succès année après année. Puis le Canada, effectivement, c'est un des marchés de golf par capita qui est le plus grand. Puis de deux, si tu combines LIV avec la PGA, Adelaide, tu dois retourner là, puis tu fais un esti de gros setup, puis tu fais sauter la baraque.
Ben oui, puis... Mais j'aime ça ton idée des t-shirts... Sleepy J must go. J'aime ça. Ça, où on pourrait faire une alternative, Low Energy J must go. Ça peut être bon aussi. Mais une chose est sûre, Nick, si le gars garde sa job, là, je sais pas, il y a des photos de qui, là. Mais pour un tour qui est géré par les membres, là, tabarnak, s'il y a un vote de confiance demain matin, il se rend pas à 50%.
On a promis des photos de Tiger.
On s'entend, là. Hey, on n'a pas entendu la réaction de Tiger, hein? Pas de réaction encore?
Ouais.
J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer
fait
avec
là,
ça.
Fait que là, LIV disparaît?
Ben, c'est ce que il y a eu des reports. C'est pas des reports, c'est des rumeurs, on va dire, ou en tout cas des gens qui ont rapporté que ce serait le plan parce que le nouveau boss de LIV, ce serait Jay Monahan. Et Jay Monahan... mettrait la hache là-dedans. Mais là encore, là, tu mets la hache là-dedans, Nick. Les gars qui ont signé là, faut que tu lui trouves un chemin pour revenir sur le PGA. Là. Tu sais, tu peux pas juste dire, bon, on annule votre ligue, puis vous jouez plus, vous irez jouer sur le Minor League Golf Tour avec vos chèques de 100 millions, tu sais, je veux dire, à peu. Puis il y a des gars là-dedans qui seraient exemptés parce qu'ils ont des championnats majeurs. Là. Fait que, tu sais, c'est la rumeur qui a été rapportée. C'est qui a rapporté ça, donc? C'est-tu ESPN, je pense?
C'est qui ont Nuclear dit... Golf.
Ouais, mais ça venait de quelque chose d'autre. Parce que Jimmy Dunn, là, plus qu'il fait d'entrevues, plus qu'on en apprend avec lui. Là. D'ailleurs, on a appris justement que...
il n'a pas peur de rien de grand-chose, Jimmy.
Non, c'est pas... Chris, que c'est pas Jay Bond. Si Jimmy Dunn était à la tête du PGA depuis 2 ans, est-ce que ça irait bien?
Il va aller...
Lui, il va dire une affaire, là. C'est pas... lui, c'est... Hey, non, lui, c'est pas... Lui, c'est Big Boss Jimmy. C'est assez solide de le voir aller. Puis il répond assez straight pipe aux histoires de 9-11. Puis tout, là, regarde, s'ils sont pas morts, ben, allez tuer moi-même. Puis, tu sais, c'est assez direct, là. Fait que tu vois que tu comprends le gars pourquoi il a la réputation qu'il a. Mais, tu sais, lui, il en partage beaucoup. Il nous a dit comment ça avait parti. Il nous a dit c'est moi qui ai envoyé un WhatsApp à Yassir le 18 avril à 7 h le matin. Là, après ça, ils sont allés jouer au golf à Londres, ou ils sont allés jouer, je me rappelle plus où, puis là, Monahan est allé jouer au golf à Londres. Mais Chris, ça, c'est le coup, je comprends pas. T'es en train de me dire, toi, qu'il y a Yassir pas tant de choses avec Jay Monahan, ils s'en vont jouer au golf quelque part, puis il n'y a pas un laveux de cartes ou un ramasseur de balles qui a son téléphone dans les poches, ce type, prendre une photo, calice, d'envoyer ça à Nuclear Golf ou à, comment que ça s'appelle, le magazine à potin, là, qui a sorti l'histoire de Tiger, là, le National Enquirer. Ou quelque chose du genre. Hein, non, c'est resté muet comme une tombe.
Ouais, mais il y a des terrains de golf il y a des terrains de golf au Québec que je ne sais même pas qu'ils existent.
Ouais, je sais, Nick, là. Mais si à la base, tu vas dans un terrain de golf,
Je comprends ton point.
Affaire mais... à du monde qui savent un peu ce qui se passe dans le monde du golf. Puis là,
parce que le terrain de Power Corporation, je ne sais même pas, il est où, là. T'sais.
Ouais, mais je comprends. Là, mais mettons, ouais, c'est sûr qu'eux autres, ils ne doivent pas arriver, mettons, puis ils rentrent au clubhouse, puis. Ouais, je joue à 10h12.
Ouais, non, c'est ça, mon tea time.
Ton nom? Ah oui, je le lis sur ma feuille écrit au crayon.
On a un tea time. On a ouais, quatre personnes qui jouent aujourd'hui. Là.
Ça va faire 52 et 30. Est-ce que vous voulez un kart?
Non, il n'y a pas de
tea. C'est pas de même, ça s'est passé, je pense. Ouais.
Il n'y a pas des boîtes de tea, man, au premier marqueur que tu prends, genre des tea, puis des. Il n'y a pas de
tea. Non, il n'y a pas ça, non? Tu penses-tu qu'il a fallu qu'il paye pour des balles de pratique en plus? Ou
Je pense que Yassir est assez connecté genre dans les, ouais. dans les clubs de golf les plus prestigieux où il y a genre 12 membres. Là.
Ouais, c'est ça. Puis ça coûte comme 500 000 rentrées. Là. Mais ça reste quand même un peu spécial, Nick, parce que même dans ces clubs-là, il y a un gars qui s'occupe des cartes sti, là.
Puis ouais, lui, mais de l'autre côté.
Pas son téléphone dans les poches ou peut-être qu'il s'est fait dire. Il s'est fait dire s'il y a une photo qui sort. On vous poursuit, Calix. On met 650 milliards d'avocats sur le dossier, mais tabarnak.
Tu le ferais-tu, toi? Hey, man, bon, je dis. Les gars d'Arabie Saoudite.
M'a laissé mon cellulaire dans ma case, je pense, aujourd'hui.
Je vais prendre les images, je vais prendre les photos mentales.
Ouais,
non, mais du niaisant qui est assez, on sera être correct. Là.
Non, d'après moi, non, c'est ça. Mais effectivement, c'est tout ça pour revenir à nos moutons. C'est la rumeur qui court comme quoi, effectivement, Jay serait s'occuperait de Liv. Puis Liv. Mais tu sais, Nick, honnêtement, on peut s'épivarder, là, mais calvasse qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Tu sais, je comprends que ça reste à définir. Puis pourquoi qu'il voulait l'annoncer? Il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à est-ce que John Rahm s'apprêtait à signer avec Liv ou en tout cas, tu sais. Est-ce que le PGA Tour était au bout du rouleau au niveau financier? Oui, il y a eu du reporting comme quoi ils ont dépensé beaucoup de fonds de réserve parce qu'ils ont puisé dans leurs réserves pour, un, les frais d'avocat, puis deux, pour créer les événements avec les bourses plus élevées. Mais tu sais, ça
toi,
reste
tu crois
que...
ça, John Ram? Moi, j'ai comme tendance à croire ça. C'est un gars ben, très familial, très... Puis je pense qu'il n'a pas aimé ça que Rory dise ah, « Faut-tu joues toutes les... »« Faut-tu joues... » »« Oh my God!
Ah, » là, là.
Faut que tu joues genre toutes les events, toutes les elevated events, t'as pas le choix. Tu sais, on s'entend que... Anyway.
Ben, je pense que John Rahm, il a juste... en anglais, on dit « genuinely », là.
Ouais.
Au fond de lui-même, il veut que les meilleurs jouent avec les. Mais je pense que c'est le cas de bien des gars, là, mais c'est juste que Rory, lui, il a comme pris le flambeau du chevalier de la
vertu. Table ronde.
Mais je pense qu'au final, John Rahm, vraiment, il veut juste compétitionner avec les meilleurs, puis il savait que ça passait par une genre d'union de même. Après ça, une fois que. Tu sais, il y a des discussions de coulisses, Nick, là. Je veux dire. Si toi, tu t'assois avec Greg Norman, mettons, oublie là, ce qu'on a. Place-toi, recule d'il y a trois semaines. Toi, tu t'assieds avec Greg Norman. Puis là, ben, vous avez des poursuites en cours où tu as une entité qui a de l'argent à pu finir versus le PGA Tour qui veut se défendre. Tu sais, je pense que si tu t'assoyais avec Greg Norman puis tu te faisais offrir 75 millions, il devait avoir une discussion autour du fait que, garde, on ne sait pas quand. Mais ultimement, c'est sûr et certain qu'on va avoir un genre de collaboration quelconque parce que ça ne pourra pas finir par... C'est soit qu'il y en a un ou l'autre qui meurt après peu importe le nombre d'années ou bien il y a une réconciliation puis un rapprochement puis une collaboration. Puis si t'es John Rahm, Nick, c'est sûr qu'écoute, là, tu viens de gagner... T'es champion du US Open il y a quoi, 2 ans, 2021? Fait que tu peux jouer le US Open jusqu'en 2031. Tu peux jouer le Masters à vie. Tu peux jouer le PGA jusqu'en 2028. Puis tu peux jouer l'Open jusqu'en 2028 aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu t'assois puis tu dis, là, j'ai tant de millions garantis à la table. Éventuellement, il va y avoir des rapprochements, ça va se rapprocher, c'est sûr. Je peux jouer dans toutes les majeures pendant les 5 prochaines. Tu sais, c'est sûr que ça a dû y effleurer l'esprit, Nick. Je peux pas croire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est normal. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires, Nick. On s'en allait ouvrir la phase de découverte, qu'ils appellent en anglais le discovery, là, dans tout le procès au niveau du procès anti-compétition et au niveau des poursuites. On s'en allait dans la phase de discovery où ce que là, c'est Nick, là, c'est t'ouvres tes livres. Là. Fait que là, toi, t'ouvres tes livres. Est-ce que le PIF, ça le tentait d'ouvrir le livre? Ben, le PIF, c'est je veux dire, il y a beaucoup de trucs qui sont publics. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à perdre en ouvrant les livres. Je suis pas mal sûr, probablement, qu'ils voulaient pas non plus pareil que ça soit à grand ouvert. Par contre, le PGA Tour qui garde ça très étanche, je suis pas mal sûr qu'eux autres avaient beaucoup à perdre. Parce qu'on le sait aussi, Nick, on sait comment ça marche. Il y a probablement eu des appels puis des histoires de « OK, tel gars qui a appelé... » Puis même du côté de Liv, Nick, tel joueur qui a déjà été recruté, qui a appelé des gars du PGA, puis là, à l'inverse, des gars du PGA qui, dans le fond, des menaces que si tu t'en vas, je te bannis. Puis tu sais, il y a eu des histoires de même où, en théorie, c'est pas, on va dire, légal d'un point de vue anti-compétition. C'est pas vraiment légal, tu sais. Fait que est-ce que vraiment tout le monde voulait aller dans ce genre de voie-là? Je pense pas, tu sais. Fait que, je veux dire, c'est pour ça qu'au final, je pense que c'était pas au bénéfice de personne. Puis comme je l'ai répété la semaine passée, je veux dire, Liv a tout à gagner. Ben, Liv, le PIF a tout à gagner aussi. Puis je suis obligé de te dire, Nick, que d'un autre point de vue, à regarder Yassir aller, puis avec les histoires qu'on a su que Liv allait possiblement disparaître, puis etc., ben, est-ce que c'était un genre de... Est-ce que c'était une obligation? Est-ce que Greg Norman s'est fait utiliser là-dedans? Il savait que ce gars-là, il a toujours voulu partir de quoi de différent. Il avait besoin du financement. Tu sais, est-ce que c'était un moyen d'arriver à leur fin? Est-ce que c'était un genre de passage obligé pour le PIF d'aller créer un tour rebelle, on va appeler ça de même, pour éventuellement se rapprocher du PGA puis les faire saigner assez qu'il va avoir un partenariat? Puis là, ben, on l'a vu, Nick, ça n'a pas été long, là. Ah là, la fille, elle se fait appeler par Anheuser-Busch, elle se fait appeler par Nike, elle se fait appeler par toute plein de compagnies qui, là, soudainement, parce qu'il y a le stamp PGA dessus, ben là, le monde, ils veulent investir. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un passage obligé ou est-ce qu'il y a vraiment un business plan de dire, bon, ben les équipes vont valoir tant, puis on va vendre des casquettes, des cliques, c'est-tu, puis je ne sais même pas c'est quoi un clique, c'est-tu. Même Graham McDowell, c'est pas c'est quoi un clique, il a écrit sur Twitter. Tu sais, fait qu'est-ce que c'est vraiment le but ou est-ce que le PIF voulait passer par là? Est-ce que Greg Norman s'est fait utiliser là-dedans? Parce que Greg, on le sait, Nick, n'a pas été au courant pendant tout. Là, il a répété à son monde que Liv allait survivre l'année prochaine. Mais la réalité, c'est qu'il est pas au courant de rien, lui-là. Il s'est complètement fait tasser. C'est Yassir qui mène la patente. Puis Yassir, ben, c'est le gars qui s'occupe de MBS, là. Mohamed bin Salman, là, le prince. C'est son homme, là. Fait que je veux dire, c'est... Quand tu parles à lui, c'est comme si tu parlais au prince, là. C'est pas compliqué, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est ça qui va... Qui va en ressortir, je sais pas. Mais il y a plein de théories, Nick, qu'on pourrait spéculer pendant tellement longtemps. Tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais toujours est-il que... Je pense que je l'ai dit la semaine passée, je me rappelle pas, là. Mais 4% du ownership de Saudi Aramco avait été transféré au PIF en 2022. Ça allait être répété en 2023. Puis ultimement, ils veulent augmenter via Aramco. Ils veulent augmenter les actifs sous gestion du PIF à 1 trillion en 2025. Fait que, tu sais...
Harry Emmanuel là-dedans, c'est quoi ça?
Ça, c'est un démocrate solide, là. Harry Emmanuel, Nick, là, c'est un méga donneur de la campagne de Hillary Clinton en 2016. C'est un gars qui voulait canceller Kanye West il y a quelques mois. Et c'est surtout le gars...
Ah, il fait chaud.
Quand il est arrivé l'histoire du journaliste qui est tourné en sushi, c'est le gars qui a dit « Non, nous autres, le PIF, votre 400 milliards ou votre 400 millions, je pense que c'était 400 millions, on vous le redonne parce qu'on ne veut pas être associé à vous autres, pitati, pitata. » Mais effectivement, Endeavor s'était fait appeler, mais ils ont dit non, nous autres, on ne met pas d'argent dans Liv, parce que Liv, c'est une entité séparée, tu sais. Puis le PIF, c'est eux autres qui les ont backés, mais Liv en tant que tel, c'était quelque chose qui voulait démarrer, ça faisait des années qu'on entendait parler. Mais non, Harry Emmanuel, c'est un méga gauchiste ça faisait pas. Lui, il a. Hey, Nick, attends une minute, là. Je comprends l'histoire du journaliste, là, mais je veux dire, le gars, il a refait un chèque de 400, là.
Ah, si ma chaise a commencé à descendre. Ah, non.
Tu sais, je te redonne ton argent parce qu'à cause de telle affaire, on ne sait pas. OK. On le sait un peu. On le sait-tu? On le sait pas. Tu sais, je ne suis pas en train de dire c'est correct ce qu'ils ont fait, là, mais je veux dire, à un moment donné,
tu sais, c'est. Tu me vois-tu descendre graduellement?
Oui, je te vois.
Ah,
je regarde ça, Nick. On a parlé du RBC, mais je vais skipper mes histoires parce que là, c'est un genre de 46 minutes, mais on n'est pas sur US Open encore.
Il y a sur US Open en 20 semaines.
Fait que là, ben, je veux juste regarder. Fuck,
on est parti pour un 2-0.
PG Live, ça, on a passé là-dessus aussi. Tu voulais-tu parler du Corn Ferry Tour un peu ou juste l'instant d'un moment?
Ouais, juste l'instant d'un moment parce que c'est. On a eu Rose Zhang qui était. Je pense qu'elle était numéro un amateur, mais il semble que oui. Elle avait gagné le tournoi au Masters, le Hanwha. Donc, Rose Zhang qui avait fait. C'était la fin de la saison universitaire. Donc, plusieurs ont tourné pro, dont Rose Zhang du côté féminin qui a gagné son premier tournoi pro. À sa première présence. Mais là, du côté masculin, Adrien Dumont de Chassard, qui vient d'Illinois, qui était dans le top, je pense qu'il était numéro 11 côté amateur, numéro 10-11 côté amateur, bien ranké, commencé sur le Corn Ferry Tour et a gagné en fin de semaine à moins 21. Donc, le golf est en santé. Puis ça fait. On faisait un lien avec Liv. On en a parlé aussi beaucoup dans les podcasts quand Liv commençait. À quel point il y avait du talent dans le monde côté golf. C'est un autre, c'est un Belge qui a joué à Illinois. Qui s'en va jouer contre des hommes. Il s'en va gagner sur le Corn Ferry Tour à sa première présence. Ciboire de Dieu. On s'entend-tu que le golf est en santé? On s'entend-tu que le golf s'en va dans la bonne direction? Puis on s'entend-tu qu'avec le PIF, puis à quel point on a vu en fin de semaine, on a parlé à RBC, à quel point on a eu une espèce de show. D'où je suis vraiment, mais vraiment excité pour le futur du golf professionnel. Parce que tu as des gars qui sortent de l'universitaire. Les astis de machines de guerre qui s'en vont gagner leur premier tournoi sur le Corn Ferry Tour quand t'as des gars qui jouent sur les mini-tours, qui montent des queues, qui embarquent sur le Corn Ferry Tour, qui sont finissent T55 ici en jouant même pas leur meilleur golf, mais en essayant le plus fort. Puis t'as ce gars-là qui sort du niveau collégial puis qui s'en va là, puis qui gagne son premier tournoi professionnel, quote-unquote. Adrien Dumont de Chassard à Watcher, un gars de Belgique, s'en va former un... Chris, on parlait de Liv Golf. On commence à avoir un... Je sais pas le quatrième, mais je peux... T'as Thomas Dietrich, t'as Thomas Peters, puis t'as Adrien Dumont de Chassard. Team Belgique, t'en trouves un quatrième, je ne sais pas où il est. T'en trouves un quatrième, tu fais Team Belgique à Adélaïde dans le tournoi d'équipe. Chris, on a quelque chose, Ben. On a quelque chose.
Anyway. Ben, pense que oui.
Ouais. Anyway, à part ça, il n'y a pas.
On a Mathis Bessard.
OK.
Il est 79e amateur au monde.
Mathis
il est à University of Illinois.
Un autre Illinois.
Ouais. Puis c'est un Belge lui aussi.
OK.
Fait que ça pourrait peut-être faire ça. Sinon, tu as d'autres Belges. J'ai beaucoup d'Espagnols.
T'as un match des Three Thomas Peters.
Ouais, mais non, mais je cherchais ton quatrième, là, puis c'est pas ça. Il n'a pas tant que ça non plus, là.
OK.
Des Belges. Mais ça marche, ça.
Non, non, mais c'est juste un petit aparté. Parce que je te parle, on s'en va au US Open, là.
Oui.
Je fais un segue.
Il faut y aller, là, parce qu'elle est là, Chris.
Oh, ouais, on n'a pas fini. Mais un autre gars.
Tu m'as fini tes bouteilles de scotch, là.
Ouais.
Hey, parenthèse, avant que tu partes sur un autre gars. Quand tu t'en vas jouer à Tempête demain?
Ouais.
Méchant salaud. Hey, non, mais c'est parce que j'ai mis ça sur les Twitter. Juste pour te dire, parce qu'avant que tu partes sur ton affaire, il y a Clown World Québec.
Il est pas encore là, lui.
Qui est encore là. Qui demande si Big Dick Nick prend les calls sur les lignes ouvertes.
Oh oui. Il n'y a pas de problème.
Sinon, il a fait un autre commentaire aussi pour dire savoir est-ce que c'est Jim Nance qui est live from the field? Ça, j'imagine que c'est moi, là.
Ouais.
Ouais, non, c'est pas Jim Nance.
Hello, friends. Tu n'as pas le même compte de base.
J'ai la même voix. Non, et Chris, non. Pas le même. Faudrait peut-être que je me mette un veston, par exemple, la prochaine fois, avec un œil ici.
Ouais, mais je confirme, il fait déjà chaud, là. Ah si, j'ai chaud. Anyway, on fait le...
Pas ça chez vous. Non, ouais, vas-y. Pas. Vas-y.
On fait le segue pour le US Open. Tu regardes le nombre de gars qui se qualifient, qui sont amateurs, c'est quand même assez impressionnant. Mais je t'amène du côté de Arizona State, puis je pense qu'on en a déjà parlé. C'est, je sais pas si tu viens de Daniel Summerhays. Daniel Summerhays.
Ben oui. Hey, bon. Calisse. L'ai sur ma feuille.
Tu l'as sur ta feuille? Bon, on s'en va là. Une famille de golf. C'est une famille de golfeurs. Puis le père, Daniel Summerhays, son frère, c'est Boyd Summerhays, qui est le coach de Tony Finau. Mais Boyd, son fils, du nom de Preston Summerhays, vient de se qualifier pour une deuxième fois. Il joue à Arizona State University. Puis il vient de se qualifier encore une fois. Il a joué 71 et 62. Et s'est qualifié dans un playoff 3-2 contre quand même des hommes. On s'entend. Puis il s'est qualifié avec Charlie Hoffman. Puis oui. Là-dedans, ben, t'as David Puig. Mais David Puig qui joue pour Liv présentement. Puis deux amateurs, encore une fois. Barclay Brown et Omar Morales, qui a fini premier puis deuxième. Mais Charlie Hoffman puis Preston Summerhays au Hillcrest Country Club se sont qualifiés. Puis il n'y a pas des deux de pique là, dans ce qualifying-là, on s'entend. Là. Fait que,
non, puis même, juste pas dire... La famille Summerhays, Daniel Summerhays, après un genre de quelques années off.
Retourne.
Ben oui, il a eu sa carte du Korn Ferry pour cette année. Fait que là, je ne sais pas combien de tournois qu'il a joué, on n'a pas entendu parler beaucoup. Mais puis le grand-oncle de Preston Summerhays, Bruce Summerhays, est un ancien champion sur le circuit. Est un ancien gagnant de tournois sur le circuit PGA Tour Champions. Et son great-grandfather, donc son arrière-grand-père, était le directeur ou l'entraîneur-chef de golf à l'université de Utah. Le golf, comme on dit, l'expression, Nick, ça roule dans la famille.
Ça roule dans la famille.
Ouais, c'est ça.
Pas une grosse saison pour Daniel, qui est sur le Korn Ferry Tour. Sa meilleure position, on parle d'un T16 aux visites Knoxville Open, il y a à peu près 3 semaines. Donc, il y a beaucoup de mistakes.
Il a-tu joué tous les tournois ou il y a.
Oui, ça
Je veux dire, il y a beaucoup de tournois, il les a joués pas mal.
Oui, okay. Beaucoup. Ouais. Okay. Si on regarde, à peu près une dizaine de tournois à jouer cette année.
OK. Ouais, mais non, Preston a joué, je pense, 3 tournois du PGA Tour au total. Et 3 tournois sur le Korn Ferry, si je ne me trompe pas. Mais zéro, aucune cote de fête parmi ces tournois-là. Donc, c'est la marche est quand même haute, malgré le fait que le gars, c'est un genre de méga all-star. La marche peut être assez haute quand même entre le circuit universitaire et le PGA. Donc,
si ma mémoire est bonne, je pense que Preston a eu un
entrevue
avec le Subpar Podcast, parce que c'est tous des gars qui sont... C'est quoi le club de golf en Arizona?
Il y en a plusieurs, mais celui que tu parles, c'est Silver Oaks. Non, Silver Leaf.
Silver Leaf, non.
Silver Leaf, c'est là que John Rahm est. Ben, ils sont à plusieurs, là. Mais Silver Leaf, je sais que c'est un que John Rahm est. Je suis pas mal sûr, parce que c'est aussi le terrain, je pense, de Arizona State. Puis Preston Summerays reste à Scottsdale. Arizona State University Golf Home Course. Pas mal sûr que c'est là. Tu vois, eux autres, ils disent qu'ils jouent. Ah, je sais pas.
Sticks, y a pas, c'est pas Sticks quelque chose.
Papago Golf Course.
Non.
Mais je pense qu'ils ont plusieurs places, mais je te le dis, Nick, Silver Leaf, c'est un des tops où ce que les gars sont membres. Entre autres, Eric Gagné avait raconté qu'il jouait souvent au golf là, avec John Rahm, puis avec Michael Phelps, puis une couple de c'est ça.
C'est peut-être là.
Mais ça se peut que ça soit pas celui-là, là, mais...
OK. Je vais le trouver, puis tu peux t'épiverder un peu, là.
Ben là, je pense qu'on est rendu au US Open, de toute façon, Nick.
Ben oui.
Silverleaf Club. Silverleaf Country Club, Scottsdale, Arizona. C'est assez solide, là. Tu iras checker les photos, là, je te le dis. Là. C'est ça. Preston... Summer A's. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous sort là-dessus? Je pense pas. Ah, Tony Finau ties course record at Silver Leaf. Voilà. During friendly match with John Rahm and Preston Summer A's. Tu vois, c'est un article de 2021 où Tony Finau a scoré 59 à Silver Leaf pour égaler le record du parcours de John Rahm qui jouait ensemble justement. Une petite ronde de pratique, le fun entre Rahm, le coach en question, Boyd Summerhays, et son fils Preston Summerhays. Les gars ont joué à Silver Leaf. Donc, comme je te dis, il y en a probablement plus qu'un. En fait, je sais qu'il y en a plus qu'un, c'est sûr. Là, c'est comme les gars de Jupiter, justement, dans l'entrevue. Je ne sais pas si tu as vu Koepka aujourd'hui, Nick, s'est fait demander comment il l'a appris. Puis, tu sais, hashtag brag. Le gars est comme, ouais, non. J'étais surpris comme tout le monde. J'étais assis au bar à Grove, là, puis je prenais mon déjeuner. Puis j'ai comme vu ça à la télé, là. Puis j'étais allé rejoindre Ricky puis JT qui étaient sur l'autre bout du range. Puis je leur ai dit, hey, saviez-vous ça? Check, ça vient de sortir. Puis après ça, j'étais allé faire ma pratique. Tu sais, fait que j'étais comme, ah ben oui, tu sais, dans le fond, t'étais à Grove. Tu sais, comme toi puis moi, on dit, on était chez nous, tu sais, ou tu sais, assez tranquille la paix. Fait que j'ai dit, ah, OK, brag. J'étais à Grove en train de manger ton déjeuner. Tu sais, fait que, quand même pas pire. Fait que, mais effectivement, Nick, si tu me permets, on passe au US Open parce que ça fait quasiment une heure qu'on jase et on n'a pas parlé encore.
LACC. Un des tournois,
Los Angeles Country Club, tu l'as dit. Je pense que ça va être peut-être, Nick, un de mes tournois, un de mes terrains préférés pour plusieurs raisons. Là. D'abord, tu le vois sur mon fond d'écran. Là. Ça, c'est la vue du 11e trou, qui est un par 3 de 290 yards. Et grâce au travail avec les arbres qu'ils ont fait, ben, vous allez le voir pendant le tournoi, on voit la ville de Los Angeles en arrière. Donc, tu as des panoramas qui sont quand même assez spectaculaires parce que justement, c'est quand même assez proche de la ville. C'est un terrain ultra exclusif. Là. Je pense que ça coûte quelque chose comme 400 000 rentrées plus genre 30 000 par année. Ça se situe sur 300 acres et c'est 36 trous. Donc, nous, cette semaine, on va jouer, on va être du côté du parcours nord qui a été, Nick, inauguré. Ça fait quand même très longtemps. Je pense que ça fait plus que 100 ans. Mais où je voulais en venir avec ça? C'est que c'est la première fois en 75 ans qu'on s'en va autour de Los Angeles pour jouer un US Open. Ça faisait vraiment longtemps. La dernière fois, c'était en 1948 à Riviera. Mais qui d'autre, Nick? Qui d'autre que Gil Hans pour revigorer ce terrain-là? Donc, Los Angeles Country Club, qui, qui a été vraiment rénové de façon assez importante entre 2008 et 2012 ou 2013, je pense, par Gil Hance. Donc, évidemment, Nick, tu sais, Gil Hance qui a fait Wingfoot, qui a fait Southern Hills, qui a fait The Country Club, qui a fait Olympic Club, qui a fait Marion, Oakland Hills. Écoute, il en a fait dans les derniers majeurs qu'on a eu, Gil Hance a toujours eu son mot à dire. Et ce qui est un peu particulier, Nick, ou en tout cas un peu unique pour un terrain qui est dans la région de Los Angeles, c'est qu'on va avoir du Bermuda cette semaine. Donc, dans vos DraftKings, les gens à la maison qui nous écoutent, si vous avez des gars que vous checkez que c'est pendant le Florida Swing qui joue bien, ça se peut que ça aille un facteur cette semaine. Parce que si vous avez jamais joué dans du Bermuda Rough, tu peux pas c'est complètement différent. Oui, le US Open, oui, ça va être du rough long. Mais du rough long qui est du ryegrass versus du rough long qui est du Bermuda, c'est deux mondes, là. C'est deux affaires complètement différentes. Nick, tu le sais, quand tu viens souvent dans le temps des fêtes, on joue du Bermuda grass, que ce soit les fairways qui sont en Bermuda aussi, les greens qui sont aussi Bermuda grass, ça fait une grosse différence dans la lecture des choses, comment tu peux chipper autour des verres aussi, contre le grain, avec le grain, puis le Bermuda rough, c'est juste impossible à prédire parce que tu peux avoir un lie de marde, ou en tout cas tu penses que tu as un lie de marde, finalement tu frappes un flyer qui va 20 verges de plus que ce que ton bâton est supposé d'aller normalement. Donc, ça va être un aspect assez unique pour un terrain qui est du côté de Los Angeles. Mais écoute, Nick, une des raisons pourquoi j'aime ça, j'ai vu les photos, j'adore, beaucoup d'élévation. Par 70, avec les rénovations, on parle de 7420 verges, si je ne me trompe pas, par 70, mais 5 par 3, 3 par 5. Donc ça, j'adore ça, parce que les par 70, je ne sais pas pour toi, par 70, c'est que juste des par 4, 2 par 3, 2 par 5, je trouve ça dolle en ciboire. Là. Mm-hmm. Là, on a 5 par 3, 3 par 5, dont un par 5, entre autres, le premier trou, je pense, qui est très, très, très accessible. Il est quand même assez long, mais ça descend de 50 pieds, fait que les gars vont se claquer des drives de 2, 320 plus à peu près chaque
coup. Bon, ça va rouler, là.
Ouais, puis
faut t'enlève quasiment... Tu sais, quand on parle au Québec des terrains de 7000 verges, 7200 verges, c'est extrêmement long. C'est même 6007 au Québec, c'est très, très long. Tu regardes ça, là, tu rajoutes au moins... si tu regardes 30 verges à drive, fois 14 trous, fait que, quasiment 500... Entre 350 et 500 verges de moins parce que la balle roule.
Ouais.
Es-tu d'accord avec moi?
Ben, je vais te dire que ça dépend des terrains que tu joues, mais de façon générale, sur un terrain qui comme celui-là, où les gars l'ont dit déjà, les fairways sont firm and fast, ça va rouler. Là. Puis en plus, quand c'est des dénivelés, Nick, oublie ça, si tu descends de 51 pieds, la balle va rouler 50 verges minimum. Là. Tu sais, fait que ça va jouer beaucoup plus...
C'est quoi le yardage total?
7423.
Bon, fait qu'on parle de quasiment 6900 qui est quand même assez court.
Mais tu sais, c'est parce que, pour te donner un exemple, le 1, c'est 578 verges. Ça descend de 51 pieds du tee jusqu'au green.
Ça rendrait avec des fers courts.
Ben c'est ça. Mais par contre, le fairway fait 26 verges de large.
Faut-tu le pognes.
Fait que si tu sors le molosse sur le tee, garde les douettes parce que tu vas voir que ça va arrêter la balle. Elle arrête vite dans le Bermuda rough versus dans le fairway firm and fast. Là,
ça, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, tu punch out avec un fer 4 ou un fer 6 parce que tu as besoin d'un peu de loft pour la sortir de là. Tu as fait rouler. Puis t'as un wedge en rentrant. Fait que, ouais. Peu importe si tu manques le fairway ou pas, mais un peu à la Bryson DeChambeau, tu vas être capable de te sortir de la marde.
Ouais. Oui, effectivement. Mais encore une fois, Bermuda Rough va venir un peu mêler les cartes parce que c'est le ryegrass, Kentucky Bluegrass. Même si tu es loin, tu dis « Ah, j'ai un wedge, je vais chopper un wedge vu que je suis proche. » Ouais, mais sur du Bermuda, ça peut être plus tricky encore parce que tu peux te retrouver avec un lie encore plus merdique. Mais effectivement, tu as un bon point. Mais où je m'en allais avec ça, il y a un autre, le par 3 numéro 7, 286 verges.
C'est pas là que t'es là? T'es pas là?
Non, moi, je suis au 11. Non, il y a deux par 3 de quasiment 300 verges. Mais il y a aussi, Nick, un par 4, le numéro 6. Donc, le numéro 6, c'est un par 4 de 330 verges ou à peu près. Et le numéro 7, c'est un par 3 de 286 verges. Donc, c'est un peu, ça te donne une idée du genre de la différence, là.
Mais le par 4 que tu parlais.
Numéro 6?
Ouais.
Oui.
Le green n'est pas très, très large. Tu peux essayer le green, mais c'est agressif.
Ben, ça fait penser au 10 à Riviera. La distance, c'est pas le problème. C'est que, oublie ça, ta balle, elle restera pas sa pizza.
Tu vois pas le
verre. Ouais, puis elle restera pas sa pizza. La seule chance que je me dis, c'est qu'étant donné que le trou descend de 54 pieds, Nick, puis c'est juste 292 verges jusqu'au début du verre, si le vent est du bon bord, peut-être que les gars vont être capables de frapper des genres de bois 5 super haut, puis ils vont peut-être être capables de hold the green, mais tu l'as dit.
Moi, je te parle du par 4, par exemple.
Oui, oui, c'est ça.
Je te parle du par 4.
Oui, je te parle okay. du par... Ben, c'est parce que mettons, 2,92, Nick, qui descend de 54 pieds. Si tu as le vent dans le dos un peu, ça va jouer 250, là.
Mais d'un autre côté, si tu regardes où tu peux lander ta balle, là,
ah, il n'y a rien, il n'y a pas de place.
T'as un bunker en arrière, à droite.
Oui.
T'as une slope avec l'espèce de rough. Je pense que t'as une espèce de creek. Si t'es short, t'es dans le rough. Même short, je pense que c'est short, t'es pas pire.
Ben, c'est ça. Puis c'est ça que t'as dit.
Parce que c'est
le green le plus étroit du terrain.
Exact. C'est comme le green du 12 au Masters. Avec une espèce. Ben, comme tu as dit, le 10, c'est carrément ça. Mais si tu faisais un petit peu plus un dogleg, puis tu mettais des armes par en haut, juste par-dessus. Faut que tu vises par-dessus le green. Faut que tu vises par-dessus les armes. Donc, c'est un blind shot.
Ben, c'est ça. Mais. Tout ce qu'on parle là, moi, je pense que ça va nous donner, en tout cas, à mon avis, ce que j'ai vu, un des terrains les plus le fun qu'on a vu depuis quelques années pour le US Open. Parce que, comme je te dis, un par 4 assez court, deux par 3 ultra longs, où il y a des gars qui, tu sais, ils vont peut-être styler up, caler sur un par 3. Trois par 5, dont une coupe qui sont quand même assez accessibles. Je pense que John Rahm, justement, au 1, en ronde de pratique cette semaine, a fait bois 5, bois 5.
Hey.
Fait que tu sais, ça va être quoi les stratégies en fonction des pins? Les greens ont de l'air épouvantable. Ça a de l'air complètement débile d'aller essayer de poter là-dessus. Là. Où ce que j'ai pour finir avec un peu sur le terrain, ben là, t'as le finish, Nick. Je sais pas si t'as vu, là, 16, 17, 18. Là, parce que il y a deux par 3 de quasiment 300 verges. Mais tu as le 15e qui, une des rondes, je ne sais pas laquelle, mais il va jouer 92 verges. Fait que les gars vont frapper genre un trois quarts de lob wedge. Fait que ça va être quand même assez intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer là. Mais là, après ça, une fois que tu as fait ton petit coup de lob wedge puis tu as calé ton birdie parce que tu t'es mis pas loin, parce que le green, il est bizarre. Fait que c'est pas des birdies automatiques, vraiment pas. Là. Tu regarderas la shape du green, vous regarderez ça à la maison. Mais là, après ça, une fois que tu as fini ton petit par 3 comique, tu dis « Ah, je suis en feu, nanana, je m'en vais là. » Mais là, après ça, tu finis 16, 17, 18. C'est 3 par 4, Nick. 5, 43, 5, 20 et 4, 93.
Aïe, aïe.
C'est fait que...
Mais encore une fois, il faut que tu enlèves 50 verges quasiment par...
Ouais, mais Nick, par 4 de 5,43, là, enlève-en 50 verges, là, c'est loin, là. C'est long, là.
Non, je suis d'accord.
Mais pour sur ton point...
ouais, mais t'as mis 3,30, là. Toi, je confirme qu'avec le taux de hanche que t'as, là...
Ah, tu m'as pas vu avec mon nouveau driver, en plus. Hey.
Exact. Bon, mais Chris, je vais t'en donner 15 verges de plus. Toi, c'est 3,45 que t'as mis, là. Fait que tu rentres, puis il te reste 155 verges.
Ben, sur le 5,43, il me reste quand même 200, là. Quand même un fer 6.
Ben, c'est ça. Un fer 6. Chris, pas un fer 4.
Non, mais si tous les trous étaient de même, mon handicap serait différent un peu. Mais bref, où est-ce que je vais en venir pour supporter le point que tu as dit, Nick, de toute façon? 16-17 joue en descendant, mais 18, même si c'est le plus court de la gang à 493, c'est lui qui, je pense, qui est le trou, parce que le trou joue en montant tout le long. Ça monte de 40 pieds entre le tee et le green. Puis je pense que le tee shot est comme assez tricky. Tu sais, fait que 4,93, Nick, si t'as le vent d'en face et ça monte, là, tu peux le trouver long, le trou. Là.
Non, non, mais...
On s'entend, là, facile, parce que quand ça monte...
Je sais pas que c'est facile.
Non, mais t'avais un bon point, parce que tu dis, ben oui, mais 520, les gars la gèlent, mettons, 3-10 carry, ça va rouler puis ça va descendre. Finalement, tu vas faire 6, faire 7. Mais 4,93, si t'as le vent d'un dent, avec, là, ça roule plus. Là. La balle, si elle tombe d'une pente de même, ton firm fairway, il change pas grand-chose, là, tu sais.
La balle, elle redescend.
Ben, tu sais, fait que là, mettons, t'en gèles une bonne vent en face, tu fais 2,80 carry, parce que le vent en face, dépendamment, il souffle comment, là. Ça, il peut te rester un genre de 220 verges, là. En montant encore, là, avec le vent en face. Fait que là, tu vas frapper quoi? Bois 5, là, tu sais. Fait que ça peut être quand même. Fait que, mélange de tout ça, Nick, ça fait en sorte que moi, je suis très excité pour ce US Open-là. Je pense que la track...
Ouais, ça va être le fun.
Ah, vraiment. Vraiment, je pense que la track, elle va être quelque chose. Puis écoute, c'est une track qui gagne à être connue. Ça fait des années qu'on n'est pas allé là. Ils ont fait quand même un assez beau logo pour le US Open cette année aussi, avec cette petite affaire-là, le petit logo du LA Country Club. Donc, ça va être assurément un excellent tournoi. Du côté, Nick, peut-être de nos favoris, là, peut-être qu'on peut enchaîner là-dessus. À moins que t'avais-tu quelque chose que j'ai peut-être manqué de ton bord?
Non, je pense que le monde qui écoute notre podcast, si t'es rendu que t'écoutes le podcast, c'est parce que t'aimes le golf. Puis, tu sais, les gros highlights, les gros points, t'es connu. On répétera pas tout ce qui a été dit durant la semaine. Fait que, sérieusement, non. Ce qui m'intéresse, c'est j'aime toujours les pairings des US Open. Ils font une bonne job. Puis qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand ils mettent les amis avec les amis, mettons. Ils vont mettre Justin Thomas avec Jordan Spieth puis Ricky Fowler. Ça, je déteste ça. Mais je dois dire qu'ils ont fait une crissie de belle job pour des beaux pairings. Golf Digest a un article là-dessus. Ils ont comme une espèce de top 8. Je t'en parle quand même assez rapidement.
Oui.
Numéro 8, Cam Smith, Sam Bennett, Matt Fitzpatrick. Donc, tu as le gars de Live Golf, le gars qui vient de bien performer au Masters et le defending champ ensemble. Ensuite de ça, Justin Rose, Ricky Fowler, Jason Day, qui est comme une espèce de throwback. Tous les gars qui performaient dans les années 2013 à 2016, quand même assez le fun. Puis qui ont comme une espèce de upswing présentement. Tu sais, ils ont eu une espèce de downswing dans les trois dernières années, mais là, Justin Rose joue du bon golf, a bien performé en fin de semaine. Ricky Fowler bounce back. Jason Day, qui a gagné cette année. Donc, une espèce de pairing des trois qui connaissent une bonne saison sur une montée. Shane Lowry, Justin Thomas, Tommy Fleetwood, des favoris de la foule, on s'entend. Tommy Fleetwood, Justin Thomas du niveau américain. Puis Shane Lowry, que tout le monde aime. Tom Kim, Saheed Tegala, Cameron Young, qui est une espèce de trio de up-and-comer sur le circuit. Super le fun. Un que j'aime moins, Tony Finau, Jordan Spieth et Patrick Cantlay. Vous allez deviner pourquoi j'aime moins ce trio-là à cause de Patrick Cantlay.
Ouais, les outils jaunes.
Yes. Deux gars de la Californie en troisième position. Colin Morikawa, Max Homa. Excellent pairing de ce côté-là. Je pense que ça va être un pairing très bon pour toute la gang avec Scottie Scheffler. Il va avoir un bon mood. Des gars, on s'entend que je pense que tu vas parler de Max Homa, puis tu en as parlé la semaine passée. Max
Homa
qui... Oh, OK. Bon, tu ne vas peut-être pas nous en parler, mais deux gars de la Californie, plus le numéro un au monde. attention, je ne sais pas trop pourquoi le gars du milieu est là, mais Rory McIlroy, Brooks Koepka et Hideki Matsuyama. Je ne sais pas pourquoi Hideki est là, mais Rory et Brooks qui vont partager deux rondes ensemble. Très intéressant. Puis sinon, au numéro 1, mais t'as les gars pas mal les plus hot présentement sur le circuit. Xander Schauffele, Victor Hovland qui vient gagner le Memorial et le numéro 2 mondial, John Rahm. Donc, des excellents pairings qui vont nous donner une espèce de gros show avec le terrain que tu viens nous parler.
Effectivement, puis c'est toujours intéressant de voir aussi les rondes de pratique. Nick, tantôt, on parlait de John Rahm. Je ne sais pas si tu as vu John Rahm qui a joué ses rondes de pratique avec Phil Mickelson et c'est un autre golfeur de Liv que je ne me rappelle plus du nom. Calic, c'est qui? C'était Cam Smith, je pense, qui a joué ses rondes de pratique. Je pense que Rahm a joué avec Cam Smith, puis ça se peut-tu ou je dis n'importe quoi? En tout cas, je sais que Rahm jouait avec deux gars de Liv pour ses rondes de pratique. Okay. Donc, c'est assez intéressant de suivre ça. Écoute, de mon côté, on ne pourra pas les passer un par un, mais j'ai comme deux approches, Nick, puis je veux faire un petit parallèle DraftKings parce que je pense que beaucoup de gens, justement, font des parlays ou des gageurs ou peu importe. Nous autres, je sais qu'on fait tout le temps des DraftKings parce que veut pas, 25$ peut sortir de deck 1 million de dollars, là. Je comprends, c'est de la loterie, puis oui, moi je m'imagine que j'ai un peu de contrôle sur la patente, même si c'est beaucoup de hasard. Alors, regarde, veux-tu pas briser mon rêve, s'il vous plaît? Mais j'ai comme deux approches, Nick, où je le sais comme pas quoi penser de tout ça, OK? Parce que j'ai un line-up que j'ai fait. Puis je t'avais parlé de Max Homa, puis je t'avais parlé de Victor Hovland, entre autres, que j'aime beaucoup parce que, bon, il a seulement 25 ans. Ils viennent de faire un gros statement en gagnant un des gros tournois où ce que tous les gars étaient là. Et il y a une saison des tournois, on va dire, majeurs exceptionnels. T7 au Masters, co-runner-up au PGA et T3 au Players. Donc, moi, c'était un gars que j'aimais. Max Homa, Nick, la raison pour laquelle je te l'avais nommé, c'est que premièrement, quand il joue sur des terrains en Californie, il est excellent. Je suis pas sûr que ça, c'est un terrain californien pur et dur. Là. C'est pas à cause du Bermuda, à cause de ce que je t'ai mentionné. Oui, Max Homa connaît des bons tournois sur des terrains difficiles. Il était dans le Pac-12 quand ils ont joué là, mais ça fait 10 ans. Il y a eu des rénovations sur le terrain. C'était pas la même affaire. Oui, il y a un peu de course knowledge à cause de ça. Mais je suis obligé de te dire, Nick, que tu sais, oui, c'est sa cour en arrière. Puis je comprends. C'est, je veux dire, c'est un gars de la place, là. Mais il a tellement pas un bon track record. Puis Nick, je sais pas qu'on l'aime pas, on l'adore, le gars, là, mais il a tellement pas un bon track record des tournois majeurs.
Non, mais à LACC, il y a un bon track record.
Ouais, je comprends, mais on s'entend, Dick, toi puis moi, là, que le LACC, puis je dis ça, regarde, Matt Fitzpatrick, l'année passée, était un gars qui avait gagné le US Amateur à The Country Club. Tu sais, fait que, je te dis pas que ça joue pas, mais c'est quand même pas les mêmes conditions, surtout pas quand il y a eu des rénovations majeures comme ça. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Je le sais pas, je le trouvais un peu cher pour un gars qui a... Oui, c'est assurément un des gars qui a une des meilleures saisons sur le circuit cette année. Mais il est quand même 2400 au niveau de DraftKings. Fait que c'est. Je me dis à ce prix-là, je suis aussi bien d'aller avec un autre gars. Moi, je vais t'expliquer un peu. Oui, je me suis fait un line-up avec Homa, avec Hovland, avec plusieurs gars, entre autres. Un gars que j'aime beaucoup présentement, puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté son entrevue avec les gars de 4Play, Tyrrell Hatton, 31 ans, n'a pas gagné de majeur encore, mais joue de l'excellent golf. C'est probablement un des gars les plus red hot présentement sur le PGA. Là. Il est pas, le monde n'en parle pas énormément. Là. Parce que, bon, justement, c'est il y a d'autres gros noms de qui parler, puis etc. Mais Tyrrell Hatton qui pourrait être là. Mais de mon côté, Nick, j'ai écouté l'entrevue de Brooks Koepka aujourd'hui. Le Brooks Koepka des Major Brooks est de retour officiellement, Nick. Puis je pense qu'il va être dur à battre. Je pense que c'est un gars que j'ai quasiment pas le choix de prendre, Nick. Brooks Koepka est juste dans une classe à part. Quand il est comme ça, là, quand il dit aux journalistes qu'il s'en calisse de tout, lui, il focus ses majeurs. Il veut en gagner 10, il est rendu à 5. 5, c'est plus que 4, c'est le fun, mais il veut se rendre à 10. Il embarque pas dans les histoires de distraction. Il a donné l'exemple de Shinnecock Hills quand il a gagné là-bas, Nick, où ce que tout le monde, tu te rappelles, Phil avait pogné une pénalité parce qu'il avait été poté sa balle pendant qu'elle roulait encore de l'autre bord. Ouais. Il dit tout le monde, il dit les gars, il dit ils bitchaient, puis ils se plaignaient de des verres, puis du terrain, puis du ci, puis du ça. Il dit pendant ce temps-là, ils ont oublié de focusser sur le golf. Il dit oui, les greens, t'es rapide, mais il dit si tu potes en montant, c'est pas mal moins pire. Tu sais, une réplique de gars qui est complètement sa tâche. Puis là, ben, il est sa tâche. Puis il était pas sûr, Nick. L'année passée, on l'a vu dans Full Swing. Ça, il a été à des places au fond du baril. Puis là, il a gagné sur Liv. Puis là, il est revenu. Puis là, il est allé gagner le PGA après avoir fini runner-up au Masters. J'ai l'impression que Brooks Koepka, c'est l'homme à battre. Là. Oui, Scottie Scheffler, c'est le meilleur, c'est le numéro un, c'est le tee to green numéro un cette année. Mais c'est vert, il n'est pas capable. On l'a vu, là, il finit d'un premier pareil parce que son tee to green est juste de loin supérieur à tout le monde. Mais il est co-runner-up l'année passée au US Open, co-runner-up au PGA il y a quelques semaines. Fait qu'il va être là pareil. Je vous dis pas qu'il sera pas là, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. J'aimerais ça avoir Ram, Koepka et Scheffler dans mon DraftKings. Mais tu sais, si dans les tops, j'ai besoin de t'en prendre un, j'ai pas le choix d'y aller avec Koepka, Nick. J'ai pas le choix.
Clown ouais, World Québec qui me demande si mon chandail de Marchessault était coupe cintrée, small ou X-small.
Ah, OK.
Ouais.
Il trouve qu'il te, il te fait tête un peu sur le
bonnet. Non, non, mais sérieusement, c'est parfait, mais c'est parce que j'ai des longs bras.
OK.
Check.
Ah, OK, je comprends.
Tu sais, je veux dire, le fit, si j'avais pris un 16 plus. Dans un. On s'entend, il vient de Jonathan Marchessault directement. Fait que,
ouais.
À cheval donné, regarde pas Abril.
Il y a ça,
oui. Je demandais un large. Il me fait bien, mais les manches sont trop courtes. C'est tout. Puis ça, je fais rire de moi depuis le début. Parce que j'ai passé à TV dans un match Toronto Maple Leafs contre Vegas Knights. On était 8 avec un chandail des Vegas Knights. J'ai posté la photo dans le groupe, là, pas longtemps. Puis,
tu mangeais du caviar avec les gens de corporate. Pass me the Chardonnay.
Chardonnay. Anyway, Brooks, 100%. John Ram, j'ai un bet de 10$ à plus 800, donc ça me donne 90. Puis, tu te souviens, quand il est rentré au Masters, il était comme un peu under the radar parce qu'il avait connu un espèce de stretch so-so. Puis, c'est Scottie Scheffler lequel on parlait. Puis, John Ram est parti, puis il est allé gagner la veste verte.
La veste verte.
Donc, oui. Potentiellement possible qu'il nous fasse le même tour. Je suis d'accord avec toi sur Brooks Koepka. Un grand fan de Tyrrell Hatton en fin de semaine, parce que Tyrrell Hatton est quand même assez surprenamment bien performé en fin de semaine, parce que normalement, il joue bien sur les terrains un peu plus difficiles.
Oui.
Quand il va avoir des birdie fest, c'est pas vraiment sa tasse de thé, mais quand ça se gagne à moins 4, Tyrrell, c'est drôle à dire parce qu'il a quand même assez un bon tempérament. Il est assez. Fait qu'il peut se fâcher assez rapidement, mais il est capable d'aligner 3 birdies d'affilée. Sinon, si je regarde ça,
papam.
Qu'est-ce que tu penses de Rory, toi, en fin de semaine?
Ben écoute, tu peux pas jamais discarter Rory McIlroy. Je veux dire, c'est un des meilleurs golfeurs au monde. C'est un des meilleurs tee to green au monde. Fait qu'est-ce qu'il va finir top 10? Ben oui, c'est sûr. Il y a des excellences. Il fait 4 top 10 en ligne dans les US Open qui s'enfilent. Là. Il a fini T7 au PGA. A manqué la cote au Masters. Donc, qu'est-ce que je pense? Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'attends comme réponse. Tu sais, dans le sens que, est-ce que c'est dans un one and done? Est-ce que c'est dans un draft king? Est-ce que c'est, tu sais, je veux dire, Rory, à mon avis, il va être là, Rory, là. Je peux me tromper, mais il peut arriver n'importe quoi dans un majeur, mais il a la game pour être là, ça, c'est sûr, là. Est-ce que c'est son type de, est-ce que c'est son type de terrain? Probablement pas, par contre, là. Mais je veux dire, ça prend un gars qui a frappe. Là. Fait que si Rory, si le driver est ajusté comme du monde, il va avoir beaucoup de wedge. Là. Mais là, après ça, sa game de wedge, c'est un peu flip un 30 sous, savoir si ça va être bonne ou non. Là, fait que c'est ça qui est un peu.
Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont naviguer sur Tommy Fleetwood. Puis ils vont. Complètement, une espèce de. Si on parle de DraftKings, je sais que Clone World veut qu'on arrête de parler de DraftKings parce que Vegas mène 2-0, là, mais on va continuer quand même parce qu'on n'a pas de caisse à faire.
Y a-tu écrit ça, quoi, là, ce fatigant-là, ou quoi?
Ouais.
T'as écrit ça en DM ou.
Non, en dessous de notre live, là.
Ah ouais, il fait ça, lui.
Mais je pense que le monde. Mais pour 100$ de plus, c'est pas. Il n'y a pas une grande forme. Mais ce gars-là, il n'a pas besoin d'une grande forme. Il a l'air d'un. C'est vraiment de l'air d'un gamer. Puis je te parle de Cam Young. Cam Young à Riviera performe super bien. Terrain difficile aussi. Il a fini 7e au Masters. Je pense que ça pourrait être un underdog à 8000. Je pense que c'est un gars qui devrait. Normalement, s'il y a une bonne stretch, devrait être pricé aux alentours de 8009. Puis là, à 8000$, dans les eaux de Tommy Fleetwood, Tom Kim, Jason Day, je pense que le monde va aller vers Jason Day et Tommy Fleetwood, vont complètement oublier Cam Young qui pourrait être sneaky pick.
Je n'ai un sneaky pour toi.
Ricky Fowler.
Non, ça, c'est pas tant sneaky. Ricky est un des meilleurs joueurs sur le tour cette année. Non, c'est un peu plus sneaky que ça.
Justin Sa.
Le gars coûte seulement 7600$, mais c'est un ancien champion du US Open. Il a fini 4e au PGA Championship. Et il a eu un Masters un peu plus difficile parce qu'il a insulté les dieux du golf. Fait qu'évidemment,
ouais, là,
ça
il
prend.
Est banni.
Il est comme en marde au Masters, mais. Pour un gars qui avait de la misère, il retrouve du poil de la bête. 5e, Liv Golf Tulsa. 4e, PGA Championship. Et 9e, Liv Golf Washington, D.C. À 7600, Nick, là. DeChambeau, c'est une bonne valeur. Là. Quoi qu'on en dise. Là. 7600$.
Je déteste prendre ce pic-là, mais. Si tu regardes aux alentours de lui, mais t'as juste en haut, tu as Justin Rose qui vient d'avoir un gros tournoi. Puis le monde va toujours aller vers le gars qui vient d'avoir un gros tournoi. Ça pourrait être un excellent pivot play sur Justin Rose.
Puis je n'ai un autre sneaky play qui non plus fait pas de sens au niveau du montant pour son track record. Est-ce que DraftKings aurait un billet anti-Liv?
Peut-être.
Parce que ça me semble que les.
Reed?
Ouais. Parce que même un gars comme Dustin Johnson, il est pas cher non plus pour un gars qui, on s'entend, serait probablement dans le top 10 mondial encore, là, s'il y avait eu des points et tout ça. Là.
Ben, je pense que la force du field, la grosseur du field joue, nombre de tournois, son track record, la forme du gars, c'est ça qui influence le salaire. Puis je dois dire que peut-être pas un biais anti-Liv, mais si tu regardes les tournois qu'ils ont joué, le nombre de tournois qu'ils ont joué, puis leur ranking versus le grosseur du field, tout ça est pondéré.
Parce que.
Je suis pas d'accord avec toi.
Patrick Reed, 18e au PGA, malgré un début de tournoi un peu plus difficile. Et 4e au Masters. On le sait, a gagné le Masters. C'est un gars qui, on le sait, Nick, est capable de grinder des parts, là. Puis pas besoin de te dire que tout ce que je vous ai nommé tantôt, là, grinder des parts au US Open, habituellement, c'est assez gagnant, là. Puis d'ailleurs, c'est ce que Koepka a dit, là. Il dit, moi, je suis bon dans ces tournois-là parce que si c'était un birdie fait, je l'aurais pas pantoute, là. Mais s'il faut que tu fight pour ton part puis que tu sois celui qui se fasse le moins usé par le terrain, habituellement, je suis là, là. Fait que Patrick Reed, en tout cas, c'est un autre nom que je te lance à 7 500 $. Si vous voulez absolument prendre des gars qui sont dans les top montants, c'est quand même un excellent choix. Mais je t'avoue, Nick, j'ai un autre line-up où ce que j'ai. Tu sais, il y a plein de gars. J'ai un autre line-up où ce que j'ai Phil qui coûte seulement 7 000 $. On parle du gars qui est runner-up au Masters, champion du PGA il y a 2 ans, joue très bien ces temps-ci. Et d'autres picks qui ne sont pas très chers, là, entre autres Matsuyama et Justin Thomas. Qui sont peut-être, ben, surtout Justin Thomas, peut-être un peu pas dans une super forme, mais ça reste un excellent ball striker qui peut probablement popper à tout moment. Là. Surtout sur des greens de même, Nick. Des greens que personne n'est habitué, des greens super ondulés. C'est le genre d'affaire qui, ça l'impacte plus ou moins les statistiques de potting. Parce que c'est tellement inhabituel comparé à d'habitude que les statistiques de potting prennent souvent le bord parce que un gars qui pote pas super bien, mais là, il y a tellement plus de place à la créativité, puis c'est tellement nouveau pour tout le monde. Puis surtout, comme je disais, inhabituel par rapport à ce que les gars jouent d'habitude, que ça souvent, ça peut peut-être aider qu'il y a des gars qui sont moins bons sur le potting, et on le sait, JT, à me dire un peu qu'ils sont potting. Fait qu'écoute, Nick, c'était pas mal ça de mon côté. Je sais pas, de ton bord, qu'est-ce qui te reste, là?
Ben, peut-être deux plugs, là, tu sais, genre, t'es dans la merde un peu, puis tu cherches un peu de salary relief, comme on dit. T'as un gars qui est quand même assez hot sur le circuit du DP Tour. C'est des top 20, un après l'autre. Français, 6 600. Un gars assez hot, Romain Langasque. Donc, oui. À 6 600. Sinon, y aller avec une valeur peut-être un petit peu plus sûre. Un gars qui performe bien, puis comme on a dit, si la balle roule, t'as pas vraiment besoin de driver 350 verges. Tu drives 280, ça va finir 310. Puis normalement, les gars sont bons avec leur long fer. Ben, un vétéran, un gars qui a déjà été là, a fini 50e au PGA Championship malgré son âge. Mais Patrick Harrington, qui est un excellent golfeur, un gars qui... J'en ai vu d'autres. Puis à 6600, ouais. Si vous devez compléter votre line-up parce qu'il vous reste 6600, ben ces deux picks-là peuvent être quand même assez intéressants. Je ne vous dis pas qu'ils vont gagner le PGA, le US Open, mais côté salary relief, ça peut être quand même assez intéressant. Long shot.
Vas-y, non.
Vraiment long shot. On va y aller avec... Gordon Sargent à 6100, pourquoi pas. On l'a essayé au Masters, ça n'a pas fonctionné. On peut double down. On y va avec Gordon Sargent.
J'haïs pas ça. J'haïs pas ça pas en tout. J'haïs pas ça. Je pense que j'aimais mieux Lounge. J'étais en train de tester mes musiques pendant que tu faisais tes long shots. Là. Ouais, je pense que Lounge, c'est mieux.
DJ Marco.
Ouais, c'est ça.
Salut.
Non, mais avoue que c'est bien ça, mieux, ça.
Vous avez bien rejoint la...
C'est bien mieux, ça, là. Hey, Nick, on a fait quand même plus qu'une heure et demie, fait que, m'a dire une affaire, depuis qu'on est sur le live, on étire nos podcasts, quand même.
Exact.
Ouais, fait que là, c'est le temps d'aller écouter le match de hockey, la Coupe Stanley, qui risque fort probablement de se gagner ce soir. Mais entre-temps,
ça va coûter cher de danseuse à la ville de Vegas.
Moment piscine, ça va coûter quelques dollars. Quelques dollars.
C'est pas des danseuses arabes là-bas.
Non, hein? Ils sont dispendieuses. Dispendieuses.
Ils sont très chères.
Oui, c'est ça. Écoute, Nick, merci d'avoir été là. Super podcast. Gros spécial US Open. On vous revient dans les prochaines semaines, évidemment. On vous l'a dit déjà auparavant, mais chaque semaine, ça devenait un peu trop demandant pour moi et Nick. Mais on va vous revenir assurément très, très bientôt parce que là, veux pas, Nick, on parle de ça, mais la cédule s'enchaîne. On a le US Open cette semaine. Il y a toi qui s'en vas aux Travelers la semaine prochaine, donc tu vas pouvoir nous donner un peu de insight. Le Travelers qui est maintenant un elevated event en passant, donc très, très, très couru par les gars. Ben, à chaque année, c'est le cas, mais là, c'est un elevated event, donc ça risque de l'être encore plus. Après ça, on a un genre de petit 2-3 semaines un peu plus tranquille, puis on s'en va, ça nous amène directement à Open Championship au Royal Liverpool pour ensuite nous amener, ben, on le sait, dans les playoffs et tout ça. Et évidemment, ça culmine avec la Ryder Cup à la fin de septembre. Beaucoup d'eau va couler sur le pont d'ici ce temps-là. Espérons peut-être que la prochaine fois qu'on se parle, Nick, on ait un peu plus de détails par rapport à tout le deal PGA, PIF, pour qu'on puisse un peu savoir un peu plus à quoi s'en tenir et qu'est-ce qui nous attend dans le futur. Mais somme toute, overall, c'est une excellente nouvelle pour le monde du golf. Sinon, ben, on vous souhaite à chacun à la maison, merci d'avoir été là. On vous souhaite une excellente semaine de golf. Et nous, ben, on se dit à une prochaine fois. Bon golf, mesdames, messieurs!